mémoire. Un podcast réalisé
par les 3e C.
Bienvenue dans notre émission spéciale
Histoire et mémoire, aujourd'hui consacrée à la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Avec, au programme en exclusif pour vous,
chers auditeurs,
d'authentiques reconstitutions d'archives sonores diffusées par Radio Londres entre le 19 juin 1940 et le 25 octobre 1944.
Mais aussi la mise en voix radiophonique de textes personnels,
parfois intimes,
retrouvés après la guerre, qui seront notre fenêtre sur la vie quotidienne des résistants et des Français sous l'occupation.
En studio, nous sommes accompagnés d'une dizaine d'historiens de 3e C.
Bonjour.
Qui viendront éclairer les textes et documents que nous entendrons. Et pour démarrer cette émission,
place à un premier document d'archives de la célèbre émission
« Les Français parlent aux Français ».
Ici Londres.
Les Français parlent aux Français.
Veuillez écouter tout d'abord
quelques messages personnels. Les fenêtres se ferment et les volets s'ouvrent.
Cher Gagné, mangez les choux. Ils sont dans le carré du pot de vin. Je répète, cher Gagnon, mangez les choux, ils sont dans le carré du pot de vin.
La pluie tombe et les habitants rentrent chez eux. Je répète, la pluie tombe et les habitants rentrent chez eux.
La course de citrouille est en quête d'escargot. Merci de vous laver.
Les oiseaux se lèvent et les branches se cassent. Je répète. Les oiseaux se lèvent et les branches se cassent.
Le document que vous venez d'entendre peut paraître de mauvaise qualité sonore. Mais en réalité, ce que l'on entend en arrière-plan, c'est un brouillage qui permet de brouiller des pistes pour les ennemis. Ce sont des camionnettes Goniot qui se mettent sur la même fréquence.
Vous aurez peut-être remarqué aussi les quatre notes qui précèdent le message, ces quatre gongs correspondant aux quatre premières notes de la 9e symphonie de Beethoven. Elles ont été choisies par la BBC, car leurs équivalents en morse, c'est la lettre V. La lettre de la victoire, celle que les résistants peignaient partout sur les murs durant l'occupation, comme symbole de leur lutte.
Quant aux messages en eux-mêmes, ils paraissent bien étranges, car ils sont codés. Ils permettent de faire passer des messages de mouvements résistants sans que l'ennemi comprenne le sens des phrases. Par exemple, le débarquement en Normandie a été annoncé par deux vers d'un poème de Verlaine, devenu célèbre.
Les sangles longs des violons de l'automne berce mon cœur d'une longueur monotone.
Mais la BBC n'a pas seulement été un moyen de faire passer des messages entre résistants des deux côtés de la Manche. Les hommes de Londres initièrent les Français à suivre des mots d'ordre et à se tenir prêts à agir aux côtés des alliés le moment venu.
L'appel à la résistance le plus célèbre est celui du général de Gaulle, diffusé par la BBC le 18 juin 1940, le lendemain du discours du maréchal Pétain pour annoncer son intention de signer l'armistice.
De Gaulle, au contraire, ne cesse de marteler que la France n'est pas seule et qu'elle ne doit pas abandonner le combat. Il appelle les Français à s'unir et à combattre les occupants allemands de l'intérieur et de l'extérieur depuis Londres.
De Londres, un bal y est donné. Hitler demande à Göring d'y aller. Le pape Calais est dur à traverser.
Le pape Calais est dur à traverser.
C'est difficile à Londres d'arriver.
C'est difficile à Londres d'arriver.
L'appel en lui-même a été entendu par très peu de Français et de Gaulle était alors peu connu. Mais le lendemain, certains journaux diffusent l'appel. Et l'année qui suit, l'existence d'une France libre et la résistance à Londres se répand petit à petit dans la population française. Tandis que les Allemands et le régime de Vichy condamnent à mort celui qu'ils appellent
le général Micro. À partir du 18 juin commence la
guerre des ondes,
puisque la BBC crée Radio Londres pour s'adresser quotidiennement aux Français. D'autres appels à la résistance, comme ceux que vous allez entendre, peuvent ainsi être lancés régulièrement.
Chers Français, vous qui nous écoutez, je vous invite à rejoindre la France libre. Rejoignez les résistants, les FFL, les FFI. Toute aide est précieuse. Aidez-nous à votre échelle. Libérons la France, restaurons la République et ses valeurs. Liberté, égalité, fraternité. Avez-vous oublié notre devise ? restaurons notre démocratie. Luttons contre l'occupation allemande, l'antisémitisme, sans oublier le perfide régime de Vichy. Résistants de l'intérieur, Matizard, vous pouvez nous venir en aide et aider la France libre. Organisez des sabotages, les trains, les usines, tout ce que vous pouvez écrire. Faites de la contre-propagande, rétablissez la vérité. Que vous soyez des soldats français, coloniaux ou étrangers, hommes et femmes, rejoignez-nous, rejoignez l'appel du général de Gaulle du 18 juin 1940. Rejoignez-nous à Londres, dans la résistance, restaurez la France libre.
Radio Paris Mans.
Radio Paris Mans.
Radio Paris Étalement.
Françaises, Français, en ce mardi 14 juillet 1941, je vous annonce que le régime de Vichy et les Allemands ont causé de nombreux dégâts dans notre belle France et que nous avons le devoir de nous rebeller. Mais où est passée la liberté, l'égalité et la fraternité? C'est pour cette raison qu'en ce jour de commémoration, je vous demande de rejoindre le mouvement de résistance de Libération Sud. Faites-le pour vous et pour la France. Continuez vos contre-propagandes, continuez vos sabotages contre les nazis, continuez à faire ce qu'ils appellent des attentats, continuez votre clandestinité et prenez soin de vous. Aidez-nous à rétablir la France dans une France digne de sa réputation, car nous devons redevenir le pays des droits de l'homme. Notre politique, réinstaurer le droit de vote pour les femmes et créer une nouvelle république. En Allemagne, mais aussi dans le régime de Vichy, ils incitent les jeunes à travailler pour le STE. Les jeunes sont alors témoins d'une violence extrême. Mais nous, la France libre, nous luttons pour protéger les jeunes, qui seront un jour nos soldats, qui protégeront le pays et le rendront plus fort.
Il ne faut pas désespérer, on les aura. Il ne faut pas vous arrêter de résister. Et n'oubliez pas la lettre V.
Ce que vous venez d'entendre sont deux appels à la résistance qui se ressemblent, mais le second est lancé par le groupe de Libération Sud, dont les figures les plus célèbres sont Raymond et Lucie Aubrac.
Ils distribuaient clandestinement le célèbre journal Libération.
À partir de 1942, le réseau rencontre Jean Moulin. Et donc, à partir de 1943, le Conseil National de la Résistance coordonne un tous les mouvements intérieurs de toute tendance politique, dont le mouvement de Libération Sud.
Alors évidemment, être résistant, cela signifiait risquer sa vie tous les jours. On pouvait être fusillé juste en ayant marqué le V de la victoire sur les murs des principaux commerçants, ce qui fut le cas à Trichâteau en 1941 par exemple.
Quand nous sommes allés aux archives, nous avons appris que dans notre région, beaucoup d'actes de résistants étaient faits, comme l'installation de campements dans un bois près de la Houssoye, où on y récupérait des soldats anglais.
Pierre Normand, sous le pseudonyme de Roger Le Breton, était postier, originaire de Fresnes-Aiguillon, a été déporté au camp de Buchenwald pour avoir participé à ce type d'action.
À la BBC, les speakers ne cachaient pas ses disques et de nombreux hommages étaient faits aux résistants morts pour la France.
Le 21 février 1944, le groupe Manoukian, des héros pour notre France, sont fusillés par des Allemands. Je pars alors au nom de la France pour rendre un hommage au groupe Manoukian, un groupe de 23 héros, dont une femme, qui se sont sacrifiés pour l'avenir français. Étant conscients d'une fin désastreuse, ils ont tout de même soutenu leur cause avec détermination. Je parle bien des attentats qu'ils ont commis, parce qu'ils se sont battus pour lutter contre l'occupation allemande, le régime de Vichy et l'antisémitisme. Utiliser la violence? Oui, car ils n'avaient pas le choix pour vaincre l'intolérance, la haine, l'obscurantisme symbolisé par les nazis. Elle peut donc exceptionnellement se justifier. Je termine en disant que nous les remercierons jamais assez pour ce grand honneur dont ils nous ont fait part.
Pour resituer le contexte de cet hommage, il faut rappeler que le groupe Manoukian était un groupe qui agissait dans la région parisienne à partir de 1941. Seuls trois de ses membres étaient français.
En effet, ils comptaient surtout des réfugiés espagnols, arméniens, italiens et des juifs de l'Europe de l'Est. Et on sait qu'ils seront fusillés au Mont Valérien en 1943.
D'ailleurs, à la suite de leur exécution, le régime de Vichy a essayé, avec la célèbre affiche rouge, de décrédibiliser la résistance en montrant qu'elle a été exercée par des étrangers. Mais la population ne s'y est pas du tout trompée.
Sur les pas des fêtes des si vous pouvez, faire des ailes d'oriflamme et sans remords, écrivez-la, chantonnez-la, rêvez des airs.
Lorsque l'on parle de la Seconde Guerre mondiale, il est fréquent d'entendre dire les nazis pour désigner les Allemands. Pourtant, il y a eu aussi des résistants face au régime d'Hitler en Allemagne.
Et oui, c'est exact. Le mouvement le plus célèbre est d'ailleurs celui de la Rose Blanche. Ce mouvement est né en 1942 à Munich. Les leaders de cette organisation sont Hans et Sophie Scholl. Cette dernière distribua, et oui, près de 12 000 tracts dans son université et ailleurs. Il prônait la liberté et la chute du Troisième Reich.
Pourtant, cela lui coûta la vie, ainsi qu'à son frère, à seulement 21 ans.
Elle fut malheureusement exécutée, vous avez tout à fait raison, le 22 février 1943.
Has die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Kommunist.
Lorsque les nazis sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste.
Als die Nazis die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Sozialdemokrat.
Lorsqu'ils ont enfermé les sociodémocrates, je n'ai rien dit, je n'étais pas social-démocrate.
Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja keine Gewerkschafter.
Lorsqu'ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste.
Als sie die Juden holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Jude.
Lorsqu'ils sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit, je n'étais pas juif.
Als sie mich holten, gab es keine mehr, der protestieren konnte.
Lorsqu'ils sont venus me chercher, il ne restait plus personne pour protester.
Martin Niemöller.
Ce poème a été écrit après la fin de la guerre en 1950. Son auteur, Martin Niemöller, était pasteur.
Avant 1933, il soutenait Hitler, puis il change d'avis à cause des mesures antisémites et devient résistant.
En 1937, il est envoyé au camp Sachsenhausen.
En 1945, il devient militant pacifiste et poète.
Dans cette émission, vous avez entendu de vraies et authentiques reconstitutions d'archives sonores fictives.
Bon, en gros, c'est nous qui avons écrit et enregistré les textes.
En intro, vous aurez évidemment reconnu des extraits du chant des partisans, interprétés par Anna Marley.
La chanson VVVV et la parodie sur le pont de Londres sont extraites de l'émission d'Irène Omelienko, La liberté au bout des ondes, Radio Londres 1940-1944 sur France Culture et proviennent à l'origine d'archives de la BBC.
Dans le rôle du speaker, Pierre Dac, Célia, Kéliane et Jeanne ont remasterisé son célèbre slogan Radio Paris ment.
Et c'est toute la classe de 3ème C qui s'est prêtée au jeu et commentaires historiques.
La bande-son du film La liste de Schindler, composée par John Williams, clôt cette émission spéciale sur la résistance.
Mais restez en ligne avec nous pour découvrir pêle-mêle d'autres reconstitutions sonores de témoignages authentiquement fictifs et poignants de résistants racontant leur vie face à l'oppression sous l'occupation.
C'était Histoire et mémoire, un podcast réalisé par les 3ème C.
Témoignage d'un Français vivant en France sous l'occupation.
Le mardi 8 mai 1943. Aujourd'hui, je vois la France occupée par les Allemands sous le régime de Vichy depuis 1940. Dans les rues, les soldats allemands arrivent en masse avec de gros chars et d'énormes camions. C'est comme si notre pays leur appartient. Nous avons perdu notre patrie. La vie sous le régime de Vichy est difficile. Nous avons du mal à trouver de quoi manger. Le couvre-feu nous impose de rester chez nous le soir et la nuit. Mais nous avons l'espoir de retrouver la liberté et notre chère patrie grâce à l'appel du 10 juin 1940 lancé par le général de Gaulle depuis Londres. J'ai pu l'entendre à la radio. Il demande aux Français de s'unir et de combattre les Allemands pour notre chère France. La résistance s'est organisée en cachette. J'ai des amis résistants qui sont dénoncés, arrêtés, interrogés, torturés et fusillés. La police française participe à ces arrestations aux côtés des Allemands. Dans les rues, je vois tous les jours de nouvelles affiches de propagande collées sur les murs pour nous inciter à dénoncer les résistants. J'ai la nausée en regardant ces panneaux montrant mes compatriotes fusillés à cause de leurs convictions. Le jour où le maréchal Pétain signe et serre la main d'Hitler, les Juifs sont condamnés. Les Allemands commencent à rafler les Juifs dans la France occupée pour les déporter. Quelques familles juives réussissent à rejoindre la zone libre dans le sud. D'autres cachées aidées par les Français. Puis les raves s'étendent dans la zone libre. Quand cela cessera-t-il? Quand retrouverons-nous une France libre et notre démocratie? Lucien Dubois.
Lettre de Michel, résistant français, envoyée à la BBC.
Bonjour, mon nom est Michel. J'habite à Paris, en France occupée. Lorsque j'ai entendu de votre appel à témoigner, j'ai saisi cette opportunité car j'ai besoin de votre aide pour retrouver une vieille amie. Je sais qu'elle vous écoute tous les jours, alors j'aimerais lui passer un message. Le voici. Lucie, s'il te plaît, rejoins-moi au lieu de notre rencontre. Chers auditeurs, sachez que la guerre nous a séparés. Elle est juive et non pratiquante. Pourtant, elle est tout de même condamnée à se cacher. Toute sa famille a été déportée et elle reste sans nouvelles d'eux depuis des mois. Pour se protéger, elle a décidé d'entrer en résistance. C'est elle qui m'a fait ouvrir les yeux sur les injustices du régime de Vichy et de l'occupation. La disparition des Juifs du jour au lendemain, sans qu'on sache où ils sont allés. Et avant tout ça, la manière dont ils étaient traités. Le couvre-feu mis en place pour contrôler la population, la mise en place d'un régime anti-républicain et le retrait de libertés fondamentales sont appliqués petit à petit. L'utilisation de tickets de rationnement rend la vie de plus en plus difficile. L'occupation allemande devient oppressante. Les soldats déambulent dans les rues et n'hésitent pas à distribuer des insultes et même parfois des coups lorsque la personne n'obéit pas rapidement. Le service de travail obligatoire imposé détruit des familles et ne laisse personne indifférent. Je ne suis pas résistant, mais j'adhère à l'idée qu'il faut retrouver nos libertés et notre pays. Le chemin que nous suivons nous mènera à la perte, chers auditeurs.
Extrait du journal d'un résistant français qui écrit sous le pseudonyme de Sérène.
21 mars 1943. Je démarre ce journal aujourd'hui, assise au parc, les pieds dans la neige et emmitouflée dans mon manteau. Je sais pertinemment qu'en commençant cet ouvrage, je prends des risques qui me coûteront sans doute la vie. Mais j'en ai besoin, pour ne pas me sentir seule, prendre du recul et me souvenir. Pour que jamais je n'oublie ces instants, cette terreur qui omnibule mes journées, accapare toute mon attention. Si je ne l'ai pas fait avant, c'est car j'aurais pas eu grand-chose à dire. Tout simplement car je ne savais rien. Ou je faisais mine de ne rien savoir. Parce que dans cette putain de guerre, fermer les yeux, c'est toujours mieux. Ça fait se sentir épargné. Pour certains, ce temps est définitivement révolu. Et à partir de maintenant, j'en fais partie. J'ai décidé d'agir, à mon échelle. Pour ne pas culpabiliser. Et te venger, Hélène, ma très chère sœur. Ne plus te revoir dans mes cauchemars. Ton visage figé de terreur. Avant de tomber inerte à mes pieds, sans même avoir pu te dire adieu. Il est temps pour moi de repartir de zéro. Je tiendrai désormais ce journal en tant que Sérène. Nouvelle vie, nouvelle identité. Sérène. 30 mars 1943. Je prends petit à petit conscience de l'ampleur de mes choix, sans pour autant les regretter. Beaucoup de choses sont arrivées ces derniers jours. Maintenant que je suis entrée en résistance, chaque jour est un combat. Je me lève sans jamais savoir si je me recoucherai le soir. Cette semaine, j'ai rencontré Bengal. Bengal est le chef du réseau de résistance dans lequel je me suis engagée. Libération Sud. C'est un bel homme, valeureux, qui a tout de suite su capter mon attention. Il me donnera les missions que je devrais réaliser seule, pour plus de discrétion, d'efficacité et de sécurité. J'ai réalisé mon premier acte de résistance hier. Il se trouve que je travaille dans une usine d'armement pour les Allemands. Travail obligatoire, maintenant que les hommes partent au combat aux côtés des Bosch. Burk, j'en ai la nausée. Mon but était donc de voler des armes pour notre groupe qui a beaucoup de mal à s'en procurer. Mon poste était donc par conséquent très avantageux. De plus, je suis un petit gabarit. Qui se méfierait d'une jeune fille frêle à l'air égaré de ce qu'elle pense, de ce qu'elle est capable? J'ai procédé de la manière suivante. Simplement, mais étrangement, je n'avais pas peur. Animée par la détresse et la soif de vengeance, l'excitation et l'adrénaline devaient aussi faire leur effet. J'ai repéré la vieille de ma mission, les armes dont nous avons besoin. Et je les ai soigneusement laissées à portée de main, prêtes. Ainsi, hier, je me suis proposée pour emmener la marchandise dans les camions des Bosch. Au lieu de cela, j'ai rejoint un camarade à un point précis, préalablement établi grâce à un plan détaillé de l'usine. Et je lui ai remis la marchandise. Après quoi, il s'est pressé de repartir, et moi de retourner au travail. C'en était presque trop simple. Sérène.
Dernière lettre de Valentin, résistant français, qui écrit à ses parents la veille d'être fusillé.
Chers parents, demain, à 16h,
je ne serai plus de ce monde. Ne vous inquiétez pas. Quand je suis entrée en résistance, je savais que ce moment arriverait un jour. J'espère que nos efforts paieront pour que vous finissiez votre vie dans une France libre. J'ai été ravie d'être à vos côtés pendant toutes ces années, même si ces dernières n'ont pas toujours été les plus belles et que je n'étais pas souvent à vos côtés. Mais je ne regrette aucune action de sabotage que j'ai effectuée, ni aucune contre-propagande. Seulement, si je n'avais pas commis cet attentat, j'aurais peut-être pu voir la fin de la guerre, voir une France libre, mais surtout vous revoir. Je vous aime. Quand vous penserez à moi, regardez le ciel, car je serai toujours là. J'espère que vos problèmes financiers s'arrangeront et que papa pourra récupérer sa ferme. Dites à mes frères que je les aime et qu'ils resteront pour toujours dans mon cœur. Votre fils qui vous aime, adieu, Valentin.
Dernière lettre de Sacha, femme résistante, à son époux, avant d'être fusillée.
15 février 1944. Mon cher époux, je me suis fait arrêter et je me ferai fusiller demain matin, à l'aube. Ceci sera ma dernière lettre. Je suis fière de tout le parcours que j'ai mené et je mourrai pour la France. Dans ma tombe, j'emporterai tous les bons souvenirs que j'ai eus avec toi et nos camarades. Je veux la paix entre les pays et que tu vois cet exploit. Je veux que tu refasses ta vie et que tu sois heureux. Quand nos enfants seront plus grands, raconte-leur nos exploits. Par exemple, la fois où on a tagué les affiches rouges, mais aussi la fois où nous avons commis un attentat pour voler les armes aux Allemands. Dis-leur que je suis morte pour la France et pour leur bonheur. Je me sens triste de ne plus vous voir, mais en paix, car ce fardeau est derrière moi. Fais lire cette lettre à mes parents. Dis-leur que je les aime. Remercie ma mère de m'avoir bien éduquée. Dis aux enfants que je les aime. Sur ces derniers mots, je te remercie pour ces années de bonheur et pour tout l'amour que j'ai reçu. Adieu, ta chère Sacha.